Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. J'aime rire et faire rire, avait-il l'habitude de dire. On reviendra dans quelques secondes d'abord sur la disparition d'un acteur qu'on appréciait beaucoup, Jean-Pierre Bacri, mort à l'âge de 69 ans, on l'a appris il y a une heure.
Bon, je voulais être tranquille moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Hein ? C'est vous qui avez voulu rester. J'avais envie de voir personne.
Voilà, j'avais envie de voir personne, extrait évidemment de Un air de famille de Cédric Lapiche. Au menu également d'Europe Soir, la grande distribution à l'heure du couvre-feu à 18h. On verra comment les supermarchés se sont organisés et comment les Français ont aussi modifié leur comportement d'achat. On en parlera avec le patron de Système U, Dominique Schellcher. 18h30, les polémiques du jour, la France face à une pénurie de vaccins. On en débattra, les élus sont très remontés, vous verrez, et disent manquer de doses. Et puis 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on évoquera la libération de la parole des victimes d'inceste. Des milliers de messages diffusés sur les réseaux sociaux sous le hashtag MeTooInceste. On estime que cela touche 10% des jeunes Français. On entendra le témoignage de plusieurs de ces victimes. D'abord le journal avec vous Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On commence à en avoir plein le cul de vos grands airs là. Faut arrêter de me parler comme ça, hein. Pas parce que vous arrivez de Paris avec vos diplômes qu'il faut vous croire le roi du monde. Hein ? Ça va. Je serai à l'heure demain, ça va.
Il était l'éternel grognon du cinéma français. Il avait cette voix puissante, ses sourcils froncés. Jean-Pierre Bacri, l'acteur et scénariste, emporté donc par un cancer. Il avait 69 ans.
Oui, célèbre pour son couple avec Agnès Jaoui, figure du cinéma et du théâtre. Il a écrit et tourné de nombreux films devenus des classiques en plus de 40 ans de carrière. On lui rendra évidemment un hommage appuyé dès le début du journal.
On vous parlera aussi de ce mystère. À Roissy, Charles de Gaulle, une cinquantaine de voyageurs chinois faussement testés positifs au Covid.
Au sommaire également ce soir, le début de la campagne de vaccination élargie aux plus de 65 ans hors EHPAD et aux plus fragiles, sur fond de crainte de pénurie de vaccins.
On sera aussi dans ce journal à Washington, où les services de sécurité disent redouter une attaque de l'intérieur lors de l'investiture de Joe Biden après-demain. Attaque qui pourrait être commise par des membres de l'armée déployés pour sécuriser l'événement.
Et puis la consécration d'un géant d'1m95, promis à une carrière de basketteur qui a renoncé au ballon orange pour les casseroles.
Alexandre Mazzia vient de décrocher une troisième étoile au Michelin après une ascension fulgurante. La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre, plus 0,10% à 5617 points.
Et puis le temps, comme chaque jour avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Alors la pluie, ça y est, revient par le nord maintenant.
Oui, mais elle revient doucement. Nous avons une petite perturbation qui apporte des averses, des nuages et du vent au nord de la Seine. Partout ailleurs, il va faire beau demain. Les températures restent bien froides le matin pour battre des records de douceur dans l'après-midi. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on a tous un film préféré de Jean-Pierre Bacri, Le sens de la fête, Le goût des autres, Didier, on connaît la chanson, Un air de famille ou encore celui-là, Cuisine et dépendance.
Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Un numéro de claquette ? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content. Bon, ben c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
Cette voix de Jean-Pierre Bacri qui nous fait sourire, même si on est triste ce soir, dans Cuisine et dépendance, absolument unique.
Oui, j'allais même ajouter par rapport à ce que vous disiez, Isabelle, on a tous quelque chose en nous de Jean-Pierre Bacri quand on est bougon, notamment. Bonsoir Mathieu Chérier.
Bonsoir.
Alors Jean-Pierre Bacri était né en Algérie, il avait grandi à Cannes, la ville évidemment du cinéma.
Oui, où son papa était facteur la semaine et ouvreur de cinéma le week-end. C'est peut-être ce qui lui a donné ce goût du 7e art, lui qui voulait au départ devenir professeur de français. Mais à l'âge de 23 ans, Jean-Pierre Bacri monte à Paris, suit des cours d'art dramatique et rencontre une certaine Agnès Jaoui. Ils ont formé ensemble un duo dont le cinéma a le secret, à la vie comme à la scène, les Jabac, comme les surnommaient à la Rennais, de Cuisine et dépendance en 92 jusqu'à Place publique, il y a 3 ans, leur dernier film, dans lequel ils livraient leur regard un peu désabusé sur une société qui semblait leur échapper. Écoutez comment ils travaillaient ensemble.
On se prend des horaires, on est à table et puis on...
De 15 à 19 heures tous les jours.
Voilà, et puis c'est pour ça qu'on discute, on est ensemble, on parle, on se censure, on se provoque, enfin je veux dire qu'intellectuellement on se presse beaucoup le citron pour donc c'est à deux que ça se fait.
Et c'est à deux que ça se faisait bien, on pourrait citer Smoking, No Smoking, le formidable Un air de famille, on connaît la chanson Le goût des autres, Jean-Pierre Bacri, ses 40 ans de carrière, débuté en décrochant un petit rôle dans le Toubib avec Alain Delon. 40 ans de carrière de comédien, mais aussi de scénariste et de dialoguiste. Une cinquantaine de films, Didier, Mes meilleurs copains, La cité de la peur. Et cette image, donc, vous le disiez, de bougon, aussi bien à l'écran que dans la vie. Je peux vous dire, pour l'avoir rencontré à de nombreuses reprises, qu'il était d'une gentillesse rare. Mais écoutez justement ce qu'il en disait.
Je me suis jamais dit, tiens, je joue que des rôles bougons. C'est pas du tout ça. Moi, je lis un scénario, le personnage me plaît, je le joue. Après, les gens sont contents, sont pas contents, ça c'est comme au marché. Mais je vois pas des rôles de bougons. C'est peut-être ma personnalité à moi qui fait que je m'approprie les rôles. Et qu'à travers ces rôles, vous voyez une partie de mon caractère, c'est possible.
Le succès est une chose très bizarre, disait Jean-Pierre Bacri. Je terminerai avec cet extrait de Cuisine et Dépendance, la suite de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Le personnage de Jacques s'adresse à celui joué par Bacri. On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. Pour aujourd'hui, c'est raté.
Oui, effectivement. Merci Mathieu Charrier, chef du service culture d'Europe 1. Je voudrais qu'on écoute ensemble maintenant la réaction de l'un de ses complices, le comédien Pierre Arditi. Tous les deux avaient notamment joué ensemble dans On connaît la chanson. C'était en 1997, le film d'Alain René.
C'est une grande peine, hein. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup, comme acteur, comme auteur et comme être humain. C'est quelqu'un qui était fidèle à ce qui s'était promis dans la vie, très intransigeant, parfois très, très, très dur avec des choses qui ne lui convenaient pas, mais c'était sa vertu aussi d'une certaine manière. Il avait une ligne de conduite parfaitement droite et respectée jusqu'au bout. Ce sont des gens atypiques que j'estime, que je respecte et que j'aime. Bon, là, on parle de Jean-Pierre, et je pense évidemment à Agnès, je ne peux pas les séparer l'un de l'autre. Simplement parce qu'au fond, d'une certaine manière, pour moi, c'est une manière exemplaire de faire le métier. C'est un pur et parfois dur, mais surtout un pur. C'est ça que je garde, et un talent fou, évidemment, comme acteur et comme auteur.
Voilà, très bel hommage, réaction de Pierre Arditi, joint pour Europe 1 par Victor Delande. C'est donc l'information de la soirée, la disparition à 69 ans de Jean-Pierre Bacri. 18h05, c'est une info qu'Europe 1 vous révélait à la mi-journée, cet étrange cluster à Roissy, une cinquantaine de Chinois testés positifs alors qu'ils étaient en transit.
Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Alors cette info, elle aurait pu passer inaperçue, sauf que ces Chinois n'avaient aucun lien entre eux et venaient de 5 destinations différentes. Et puis Guillaume, l'histoire ne s'arrête pas là.
Eh oui, c'est un imbroglio pour ces voyageurs chinois qui n'ont toujours pas compris ce qui leur arrive. Hier, ils ont atterri à Paris pour ce qu'ils croyaient être une simple escale avant de rejoindre Shanghai. Ils venaient de Bogota, Istanbul, du Panama, de Lima et de l'île Maurice. Avant d'embarquer dans leurs avions respectifs, ils avaient tous un résultat de test PCR négatif. Mais depuis fin décembre, la Chine exige aussi qu'un autre test soit pratiqué en zone de transit. Et la surprise, à l'aéroport de Roissy hier, 49 d'entre eux sont testés positifs et donc placés en quarantaine dans un hôtel. Mais autant de personnes contaminées sur différents avions, cela a intrigué les responsables qui ont donc décidé de retester ces mêmes passagers ce matin. Et effectivement, d'après nos informations, 32 sont finalement négatif. On attend encore les résultats pour les 17 autres. Mais à ce stade, une hypothèse se dessine. Il y a eu un loupé au laboratoire dédié à ces tests PCR qui sont pourtant réputés fiables. Aéroport de Paris nous précise que des vérifications sont en cours pour comprendre ce qui s'est passé, surtout éviter que cela ne se reproduise. En attendant, les passagers chinois négatifs vont enfin pouvoir embarquer pour rentrer à Shanghai.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
C'est un visage familier des Français. Lynn Renault s'est faite vacciner aujourd'hui.
Oui, car Lynn Renault a effectivement plus de 75 ans, elle en a même 92 et entre donc dans la nouvelle catégorie de Français qui depuis aujourd'hui peuvent se faire vacciner.
Les plus de 75 ans, hors EHPAD, mais aussi les personnes les plus fragiles, malades ou sous traitement. J'étais réticente au début à confier la chanteuse comédienne, mais je suis contente d'avoir pris la décision. Pour moi, dit-elle, c'est un acte de solidarité collective.
Alors, Frédéric Michel a vécu cette première journée à Mandelieu, la Napoule, dans les Alpes-Maritimes, où le centre des congrès a été transformé en centre de vaccination.
C'est très simple, on vous demande votre date de naissance et on vous donne rendez-vous.
Un accueil personnalisé d'immenses box espacées et régulièrement nettoyées. Monique a le sourire, en quelques minutes elle a obtenu un rendez-vous la semaine prochaine. C'est le cas aussi de Raphaël, 76 ans, qui voit bien que tout le monde ne pourra pas être vacciné rapidement.
J'ai de la chance d'être papa, il est premier. Bon, maintenant il fait ce qu'il peut aussi. Il est en retard, il est passé à côté. J'espère que ça va reprendre pour que tout le monde puisse se faire vacciner.
Dans les Alpes-Maritimes, où la population est plus âgée que dans bien d'autres départements français, les élus s'inquiètent de ne pas voir arriver les précieux vaccins. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu.
Très concrètement, nous avons 150 doses pour 2 jours. Je suis incapable de vous dire combien j'ai de doses mercredi, puisque l'État n'arrive pas à me le dire. S'il n'y a pas beaucoup de vaccins au niveau national, c'est une chose, mais même le stock qu'on a, on n'arrive pas à le livrer au centre de vaccination. C'est un désastre. On voit encore une nouvelle fois la faillite totale de l'État.
Et même s'il a obtenu un rendez-vous pour se faire vacciner, Armand, 80 printemps, n'est pas moins sévère avec le gouvernement.
L'Angleterre, qui est sortie de l'Europe, a fait pratiquement plus de 2 millions de vaccins. Puis nous, les Français, l'Europe, on est attendu à pleurer à quelques vaccins. Je ne comprends pas qu'on ait autant de culots pour mentir.
À Mandelieu, faute de doses suffisantes, seules 70 personnes ont été vaccinées aujourd'hui, alors que le maire assure pouvoir accueillir dans son centre jusqu'à 1 800 personnes par jour.
Frédéric Michel qui était donc à Mont-de-Lieu-la-Napoule pour Europe 1 dans les Alpes-Maritimes.
C'est un marqueur fort du quinquennat Macron. Le très sensible projet de loi sur le séparatisme arrive en commission à l'Assemblée.
Rebaptisé projet de loi confortant le respect des principes de la République, ce texte touche à des sujets ultra sensibles. 1700 amendements ont été déposés.
Alors, texte qui coïncide avec l'adoption d'une charte des principes de l'islam par le Conseil français du culte musulman. Cette charte vise en fait à entériner la comptabilité de la foi musulmane avec les principes de la République.
Et Emmanuel Macron salue aujourd'hui un engagement clair et net.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 18h09 à suivre dans votre journal. On part à Washington. Washington en état de siège à deux jours maintenant de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.
Et puis on vous racontera la belle histoire d'un basketteur talentueux qui a préféré devenir chef et il a eu bien raison.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on part aux États-Unis à 18h11. J-2, ça y est, nous y sommes. C'est mercredi que Joe Biden deviendra donc le 46e président des États-Unis.
Et à Washington, on s'active pour mettre au point les derniers détails de la cérémonie d'investiture. Les services de sécurité sont sur les dents. On vous retrouve, Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant. Alexis, les services de sécurité se préparent même à l'éventualité d'une attaque menée par un assaillant de l'intérieur.
Oui, plusieurs fonctionnaires du ministère de la Défense ont exprimé leur inquiétude sur le risque d'une attaque commise par des individus chargés de la sécurité de l'investiture. 25 000 membres de la garde nationale seront présents mercredi à Washington et depuis une semaine, le FBI passe au crible les dossiers de ces soldats, parfois à deux ou trois reprises pour éviter tout risque. Les autorités du Pentagone ont demandé aux officiers de redoubler de vigilance et de faire remonter le moindre problème. Les membres de la garde nationale eux-mêmes ont également été formés à l'identification de menaces internes, assure le secrétaire à l'armée de terre Ryan McCarthy. Selon lui, des membres de l'armée ont assisté au meeting de Donald Trump le 6 janvier à Washington, mais leur implication dans l'attaque du Capitole n'a pas été établie. Ryan McCarthy se veut tout de même rassurant. À l'heure actuelle, aucune preuve d'une quelconque menace intérieure n'a émergé. En tout cas, tout ce dispositif de surveillance, toutes ces précautions tranchent avec l'échec sécuritaire de début janvier. Ni l'armée, ni le FBI n'avaient alors su voir venir la menace d'attaque contre le Congrès.
Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1. L'opposant russe Alexei Navalny placé en détention pour 30 jours au lendemain de son retour à Moscou.
Oui, il appelle d'ailleurs les Russes à porter le combat de l'opposition dans la rue.
N'ayez pas peur, dit-il, descendez dans la rue car c'est ce que les bandits au pouvoir craignent le plus, que nous descendions dans la rue. On sera à Moscou dans le journal de 19h.
On en vient à présent, Isabelle, à cette ascension fulgurante.
Là où les plus grands mettent habituellement toute une vie pour décrocher le Graal, lui décroche sa troisième étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, au bout de quelques années seulement. Alexandre Mazzia a ouvert son restaurant marseillais en 2014. Alors depuis le Covid, forcément, il est fermé, comme tous les restaurants, mais il a choisi de continuer à régaler ses clients en installant un food truck dans les quartiers sud, Stéphane Frangy.
Oui, pour garder la tête hors de l'eau, entretenir la passion et ne pas subir ce confinement, comme il le résume lui-même, eh bien c'est donc à bord de Michel qu'il entretient la flamme. Michel, c'est sa camionnette stationnée dans le sud de la ville et baptisée ainsi en hommage à son grand-père, un pêcheur breton. Ses paniers repas à une vingtaine d'euros attirent les curieux et cet ancien basketteur de 44 ans poursuit ainsi sa cuisine audacieuse où le sorbet framboise est relevé à l'harissa, le tiramisu saupoudré au curry et le chocolat fourré à l'anguille fumée. Si, si, la cuisine d'Alexandre Mazzia, c'est un petit peu son histoire, son parcours de sa naissance, les saveurs de son enfance à Pointe-Noire au Congo jusqu'à Marseille après avoir parcouru le monde. Le voilà donc récompensé une nouvelle fois en 2 ans et bien impatient d'ouvrir à nouveau les portes de son restaurant AM avec cette fois-ci un tout nouveau macaron Michelin à la porte.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1, donc à Marseille.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 et à 19h pour le journal. La météo avec Anissa qui nous annonce un temps couvert au nord mais plus ensoleillé dans le reste de la France.
Exactement, c'est une nouvelle perturbation, Julien, qui arrive demain par le nord-ouest et qui nous donne un temps humide et doux. Alors de la Normandie à la Lorraine, en passant par le bassin parisien, nous aurons une journée avec un ciel couvert et de nombreuses averses. Sur les Ardennes, nous aurons même quelques petits flocons demain matin. Et puis le vent va s'engouffrer dans les terres, il arrive des côtes de la Manche, va s'engouffrer et jusqu'à la Lorraine, ça va souffler fort demain jusqu'à 70-80 km/h. Au sud de la Loire, là c'est le soleil qui s'impose dans l'après-midi. Il va faire très beau sur l'ensemble du pays, en tout cas les régions au sud de la Loire avec un soleil très généreux. Attention tout de même sur le pourtour méditerranéen, pas mal d'entrées maritimes qui pourront apporter quelques petites gouttes sur le Var et les Bouches-du-Rhône.
Les températures.
Les températures. Ah. Très froides demain matin.
Très
avec
froide.
Moins 6 degrés à Aurillac.
Je pensais qu'avec le soleil, ça allait remonter sensiblement.
Eh bien non, parce qu'on n'a pas beaucoup de couverture nuageuse et du coup, le froid est présent quand on n'a pas beaucoup de nuages pendant la nuit. Moins 6 à Aurillac, moins 5 au Puy-en-Velay, moins 3 à Brive-la-Gaillarde, moins 2 à Strasbourg et Lyon, 1 petit degré pour Marseille et 5 à Paris. C'est sous les nuages de la perturbation qui fera le plus doux, avec 8 degrés à Quimper et 10 à Saint-Brieuc. Et alors, dans l'après-midi, oui, ça reste toujours frais à l'est, avec seulement 4 à Strasbourg, 9 pour Paris. Et on va avoir un petit pic de chaleur dans le sud-ouest demain, avec 16 degrés à Biarritz ou encore 17 à Pau.
C'est marrant, c'est jamais dans le nord les pics de chaleur.
Non, c'est
merci,
rare. Ouais.
Merci Anissa. C'est noté, vous revenez
à
nous voir
à
évidemment à 18h30 pour un nouveau point sur le temps.
Europe 1, Julien Buchy.
18h15, restez avec nous dans quelques secondes. Comment nos hypermarchés s'organisent depuis samedi avec ce couvre-feu à 18h? Eh bien, on en parle avec le patron de Système U, Dominique Schellcher. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
Avec notre invité ce soir à 18h18, le patron de l'une des grandes enseignes de la distribution française. Bonsoir Dominique Schellcher.
Bonsoir Julien Buchy.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de Système U, vous-même propriétaire d'ailleurs d'un magasin Super U à Fessenheim, dans le Haut-Rhin. La première question d'abord, évidemment, comment se sont passées les premières 48 heures de ce couvre-feu national à 18h? Est-ce que, comme on le prédisait, on assiste à un report des achats à un autre moment de la journée?
Absolument, les clients viennent plus tôt dans la journée, il y a un pic au milieu de l'après-midi et les choses s'étalent. Vous savez, nous, on vit sous couvre-feu dans une quinzaine, puis après une vingtaine de départements depuis le début de l'année, donc on avait un peu de recul. Donc oui, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent à la campagne davantage le samedi,
oui, hein,
ça leur permet de bien s'organiser. Il y a un petit pic aussi le mercredi, parce que souvent le mercredi, on a les enfants, donc on vient aussi le mercredi. Et il y a, en zone urbaine, par contre, c'est un peu plus délicat le samedi, et les gens profitent beaucoup du dimanche.
Oui.
Donc, tous ceux qui ouvrent le dimanche en zone urbaine, ben, eux ont de la fréquentation.
Il y a deux phénomènes, Dominique Schellcher, qui permettent de faciliter aussi les courses, que ce soit au milieu rural ou au milieu urbain. C'est le drive, évidemment. On commande à l'avance et on vient prendre son panier de repas. Ça dure quelques secondes, c'est très très pratique. Et on peut passer à la sortie du travail. Et puis, il y a aussi le fait que, je crois, vous avez avancé vos horaires d'ouverture. Désormais, on peut aller chez Système U à 7h, 7h30, alors qu'avant, c'était plutôt aux alentours de 10h.
Vous avez raison sur les deux points. On a essayé d'élargir, donc les gens peuvent venir plus tôt le matin, souvent oui, une demi-heure ou une heure plus tôt. Donc ça, c'est très pratique quand
donc
même.
Donc là, on va faire ses courses avant d'aller travailler.
Avant d'aller c'est ça travailler, l'idée. Absolument.
On a et ça fonctionne, ça.
Et ça fonctionne. On a déposé les enfants à l'école et on y va juste après. Et sur le drive, donc le e-commerce, vous avez raison. Là, il y a un vrai boom. Et surtout, tiens, vous qui êtes intéressé toujours par les évolutions, il y a un grand boom sur la livraison collaborative. Donc, la livraison collaborative. C'est quoi la livraison collaborative?
Ce sont
donc des gens qui sont disponibles à la maison, oui, qui suivent une application. Il y en a plusieurs qui existent en France.
Et qui vont faire les courses pour le voisin.
Et qui vont livrer les courses du voisin.
Et
ce phénomène-là explose.
C'est le Uber de la livraison, en quelque
exactement,
sorte.
Exactement, exactement. Et donc, le voisin a une petite rémunération.
Oui.
Et je vous cite un exemple. Vendredi après-midi, par exemple, dans mon magasin, un jeune étudiant a touché 60 euros de commission pour avoir livré 4 paniers de courses.
Voilà. On peut se faire de l'argent en livrant les courses des riverains autour des.
Il y a plein d'étudiants qui cherchent des petits boulots. Ben ça, c'est un petit créneau qui est en train d'exploser actuellement.
Et comment on fait pour ça? On s'inscrit sur la plateforme? Il y a une application dédiée?
Il y a plusieurs applications. On ne va pas faire de publicité cet après-midi. On s'inscrit. Et puis on guette dans ce
très
secteur
bien
ce qui est disponible.
Merci pour l'information, Dominique Schellcher. Alors en termes de vente, vous avez eu des achats de précaution comme les autres fois, des pâtes, du papier toilette? Est-ce que les Français ont stocké? Comme malheureusement, je dis malheureusement parce qu'en fait, il n'y a pas de pénurie au bout du bout.
Non, non.
Mais souvent, les Français ont ce réflexe-là.
Absolument, je vous confirme qu'il n'y a absolument pas de pénurie ni de risque de pénurie. Cette fois, je pense que ce n'est pas de la peur de manquer. C'est plutôt, je vais sans doute pouvoir moins souvent aller au magasin,
oui,
donc je prends un paquet de plus pour être tranquille à la maison. Et donc, les produits, c'est quoi? C'est ceux qui peuvent se stocker. C'est pas mal le surgelé. Mmh. Le surgelé va très fort. toujours le papier WC, l'essuie-tout, oui. Et aussi des conserves.
Ça, c'est le grand mystère du confinement. Voilà. Les gens adorent le papier toilette.
Tout à fait.
Non, il y a un élément qui peut être intéressant quand même, Dominique Schellcher, sur la manière dont ce couvre-feu modifie les actes d'achat. Vous vendez de l'alimentaire au supermarché, hypermarché, mais plein d'autres choses aussi. C'est les fameux articles non essentiels dont on avait tant parlé au moment du second confinement. Est-ce que vous observez une baisse, par exemple, des achats superflus? On se concentre, comme on a moins de temps, sur l'essentiel, on achète des aliments, mais on n'achète plus de disques, de cadeaux pour les enfants, d'articles de pêche et je ne sais quoi encore.
C'est vrai, il y a certains produits qui ont moins de succès cette année. Je pense au textile. Clairement, cette année,
le
textile, clairement, les gens se sont dit « je renouvelle moins ma garde-robe ». Et il y a un autre phénomène, c'est le développement de l'occasion aussi. Les gens se disent « j'ai plus besoin forcément de payer le prix fort d'un nouvel article ». Et d'ailleurs, nous avons ouvert dans nos magasins des rayons maintenant d'occasion.
Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble.
Ouais, tout à fait.
Un tiers tout de même, Dominique Schellcher, un tiers des courses alimentaires se font normalement après 18 heures. Ça va quand même avoir un impact, ça, sur votre activité de groupe?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, dans notre activité, non. Parce que le placard à la maison...
Pas d'impact
pour... Non, pas pour l'instant, non. Parce que, je répète, les courses alimentaires, il faut les faire. Donc, les gens s'organisent différemment avec tous les outils qu'on a vus avant. Après, soyons clairs, il est certain que si vous êtes en centre-ville, que vous avez peut-être une activité non alimentaire ou que vous êtes un boulanger en centre-ville, je comprends que ça puisse être plus compliqué.
Et il n'y a pas de rush dans les magasins? Vous arrivez à respecter le 1 individu pour 8 mètres carrés? Parce que il y a beaucoup eu de débats là-dessus. Ce n'était pas très respecté dans certains supermarchés.
Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. La jauge telle qu'elle est prévue aujourd'hui est quasiment jamais dépassée dans nos magasins.
Dépassée.
Parce qu'elle est bien prévue, bien calculée. Ce qui pose parfois débat, c'est est-ce que cette jauge est bien contrôlée à l'entrée? Est-ce que c'est bien compté? Et la consigne dans nos magasins est bien sûr de le respecter. Il y a du jaugeage électronique, il y a des gardiens qui comptent, il y a différents systèmes. Mais normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cette jauge et le respect de cette jauge.
Alors, je sais que c'est une compétence des territoires, du département, mais est-ce que vous demandez la généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche?
Nous ne sommes pas des farouches partisans de l'ouverture du dimanche chez U. Ceci dit, maintenant, on est dans une situation de crise particulière. Donc, je pense qu'il faut donner la possibilité aux commerçants qui le veulent de l'avoir. Ça se passe effectivement préfet par préfet. Donc, il faut regarder ça. Voilà. Donc, chez nous, certains collègues qui ont une difficulté particulière, qui peut-être quand même, eux, un peu perdus, se disent « oui, j'ouvre le dimanche ».
Oui. Je voulais vous entendre, pour terminer, il nous reste quelques instants, Dominique Schellcher, sur l'alliance et sur ces discussions en cours entre le Canadien Couche-Tard et votre concurrent Carrefour. Alors, il y a eu le veto de Bercy, mais les discussions se poursuivent entre les deux acteurs. Est-ce que vous estimez que c'est le rôle de l'État et de Bruno Le Maire de garantir notre souveraineté alimentaire et de dire non, donc, à une opération avec un acteur extérieur?
Vous savez, moi, j'ai participé l'année dernière de près. J'étais à ces réunions de suivi de la chaîne alimentaire avec le ministre. Et j'ai bien compris que le gouvernement, Bruno Le Maire, était très attaché à cette sécurité-là. Donc, à un moment de vouloir la préserver, ça ne me surprend pas.
C'est logique.
Comme je ne suis pas surpris par le fait qu'il y ait des discussions entre deux acteurs importants, internationaux.
Mais est-ce que ces discussions, elles sont vraiment stratégiques? Parce que, si j'ai bien compris, c'est plutôt une opération capitalistique menée par Bernard Arnault d'un côté, Philippe Crouzet de l'autre, actionnaire du groupe, actuel patron d'ailleurs des Galeries Lafayette. C'est eux qui veulent vendre leurs actions et c'est eux qui ont suscité visiblement ces discussions en vue d'un rapprochement.
Alors après, moi, je ne vais pas juger le détail des discussions d'un confrère. Par contre, il faut comprendre que dans un domaine où nous sommes de plus en plus concurrencés par des puissances internationales comme les grands GAFA, il faut des moyens, et notamment des moyens d'investissement pour préparer l'avenir.
Oui.
Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait notre cas. Nous sommes une coopérative, nous ne sommes pas opéables, nous n'avons pas d'actionnaires comme cela. Et par exemple, nous, on ne rentre pas du tout dans ce type de discussion. Mais par contre, que les groupes intégrés est ce type de réflexion, je ne suis pas surpris.
Mais vous pensez, pour terminer, que ça fait sens sur un plan opérationnel et industriel?
Là, en l'occurrence, si on observe avec un peu de recul, il y a un spécialiste de l'alimentaire et un spécialiste de la proximité et des stations-service. Là, pour le coup, c'était assez complémentaire et il y avait peut-être moins d'impact sur l'emploi si ça allait au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez?
Oui.
Donc, quelque part, il y avait une complémentarité à tout le moins sur le papier.
Bien, merci pour ces quelques mots de commentaire et d'avoir été ce soir notre invité dans Europe Soir. Merci Dominique Schelcher.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, restez avec nous, le rappel de titre dans quelques secondes et le débat des grandes voix. Pourquoi n'a-t-on pas suffisamment de doses pour vacciner les plus de 75 ans? La grogue monde, vous verrez chez les élus, on en parle, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet à 18h30.
Et on a appris cet après-midi la mort du comédien Jean-Pierre Bacri. Il avait 69 ans et luttait contre un cancer. Auteur, scénariste, il était célèbre notamment pour son couple avec Agnès Jaoui, avec laquelle il a entre autres écrit le film Un air de famille, connu pour ses rôles dans On connaît la chanson, Le goût des autres, Cuisine et dépendance, Didier. Plus récemment, Le sens de la fête, il avait reçu plusieurs Césars. Le monde du cinéma lui rend hommage ce soir. Les mots nous manquent, immense tristesse, écrit sobrement la Cinémathèque française sur Twitter. Le top départ aujourd'hui de la vaccination des plus de 75 ans, hors EHPAD, et des personnes fragiles ou bien atteintes de pathologies graves. La France referme ses frontières, pas de vacances au soleil au mois de février, même les Antilles imposent un isolement de 7 jours. Également en raison de l'épidémie, la réouverture de Disneyland Paris est finalement repoussée au 2 avril. Le PDG du Canadien Couche-Tard affirme qu'il serait prêt à tenter un nouveau rapprochement avec Carrefour si la situation évoluait favorablement en France, 2 jours après l'annonce de l'interruption des négociations suite au veto de Paris. Et puis Alexandre Navalny appelle les Russes à manifester contre le pouvoir, l'opposant jugé dans un commissariat au lendemain de son arrestation à l'aéroport de Moscou. Il restera incarcéré au moins jusqu'au 15 février et dénonce une parodie de justice.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Un petit coup d'œil au temps avant de passer aux grandes voix du lundi avec de la douceur. Enfin, j'allais dire de la douceur à Nice, au programme demain.
De la douceur, Julien, demain après-midi, parce que demain matin, il va encore faire bien froid. Effectivement, le ciel est très dégagé sur la moitié sud du pays et les gelées seront bien présentes avec moins 6 degrés à Aurillac, moins 4 à Annecy, moins 3 pour Agen, moins 1 degré à Montpellier, moins 2 à Strasbourg, 0 à Bordeaux et jusqu'à 10 degrés à Saint-Brieuc sous les nuages de cette perturbation qui arrive par la Bretagne. C'est vrai que dans l'après-midi, Julien, vous avez raison, une grande douceur est prévue pour le sud-ouest particulièrement avec 17 degrés à Pau ou encore 16 degrés sur le piémont pyrénéen. Ailleurs, les températures seront stables comme aujourd'hui. Globalement, le temps est assez calme demain avec dans le centre-est des brouillards givrants le matin et des vents forts sur les côtes de la Manche avec une perturbation qui apportera de la pluie au nord de la Seine.
17 degrés à Pau, c'est pas rien.
Ah, c'est agréable.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo à partir de 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien
Bugier. 18h32, le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Brice Teinturier, bonsoir Brice.
Bonsoir.
Directeur général délégué d'Ipsos France. Sophie Dravinel, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique du Figaro. Alors on parle ensemble d'abord de cette vaccination qui décidément s'avère bien compliquée. C'était le coup d'envoi aujourd'hui pour les plus de 75 ans et déjà les rendez-vous affichent, nous dit-on, complets et de nombreux centres disent manquer de doses, même si le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut nous rassurer.
Chaque semaine, à chaque fois que des doses nous seront livrées, eh bien, les doses correspondront à des créneaux de rendez-vous qui seront donnés dans les 800 centres du pays et qui permettront de vacciner davantage de Français. Donc nous sommes en flux tendu, c'est notre stratégie, c'est la stratégie de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, de tous les pays en réalité qui vaccinent. On ne fait pas de stock caché, au contraire, dès qu'on a des vaccins, on les déploie et on protège les Français.
Voilà, le problème c'est qu'il n'y en a pas suffisamment visiblement des vaccins. Les plus de 75 ans, ça représente tout de même 6 millions de Français. 6 millions de Français à vacciner en quelques semaines. Il y a plus de 800 centres de vaccination qui ont été montés, mais il n'y a pas assez de doses. Écoutez par exemple, avant de vous entendre les uns les autres, ce que disait aujourd'hui la maire PS de Lille au micro d'Europe 1 de Lionel Gougelot, Martine Aubry.
Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement nous dise la vérité, on manque de vaccins. Dites-le nous et choisissons les personnes qui ont le plus besoin d'avoir ces vaccins. Mais on ne peut pas repartir dans cette incertitude. Et ce n'est pas possible de ne pas vacciner les gens, d'être aussi en retard dans notre pays.
Voilà, Sophie Dravinel, il n'y a pas suffisamment de vaccins?
Non, je crois qu'effectivement, moi, ce que je retiens, outre la polémique sur les vaccins, ce sont ces mots de Martine Aubry que l'on sait capable de vraie colère. La vérité, il faut nous la dire. Et je crois que cette phrase illustre...
Et ça fait référence à plein de choses, hein,
oui,
évidemment. Les masques, les tests...
Depuis le début de cette crise, ça fait référence. Et pour moi, cette phrase, elle résume parfaitement bien le rapport que certains élus locaux peuvent avoir avec l'État, les difficultés qu'on a observées partout et qu'on observe dans ce cas précis entre les maires, les ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé et l'État globalement. Un manque de confiance.
Charles Villeneuve, alors On cite Martine Aubry, mais il y en a plein d'autres. Hein. J'en ai relevé quelques-uns. Il y a Valérie Pécresse ce matin, présidente de la région Île-de-France, qui disait c'est le bazar. Il y a le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui disait que lui, dans son département, ils n'ont que 50 doses par jour pour chacun des 17 centres de département. Donc en substance, les élus, ils disent c'est bien gentil d'avoir 800 centres de vaccination sur le territoire, mais si on peut vacciner quelques dizaines de personnes par jour, ça n'avance pas.
Alors, moi, je retiens un mot du ministre de la Santé, afflux tendu. Il est afflux très tendu.
Je crois qu'on avait compris ça depuis le début qu'on était.
Il est afflux très tendu. Moi, je ne sais faire qu'une seule chose dans ces cas-là, c'est d'appeler les maires. Et j'en ai appelé deux, évidemment, dans ma région favorite d'adoption.
Le sud.
Le sud-est, absolument. Cannes et Mandelieu-la-Napoule. Et alors, ils ont reçu 4 000 demandes de rendez-vous entre 8h et 9h ce matin, notamment sur Mandelieu. Et le double, par exemple, sur Cannes. Et ils ont pour aujourd'hui 70 vaccins pour Cannes et 70 vaccins pour Mandelieu.
Voilà, tout est dit.
Voilà.
Tout est dit.
Alors, absolument, tout est dit et par-dessus le marché. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ils étaient, si vous voulez, annoncés comme Pfizer, et puis c'est Moderna qui est arrivé. Et donc, ils n'avaient pas les bonnes aiguilles, parce que ce sont les maires qui paient les aiguilles, qui cherchent les infirmiers, les médecins, et évidemment les installations. L'État ne prend en compte absolument aucun de ce que je viens d'énumérer.
Alors, le grand paradoxe là-dedans, Brice Teinturier, c'est quand même que l'État a tout fait pour convaincre les Français d'aller se faire vacciner, on lance les vaccinations, on croule sous les demandes, il n'y a plus de rendez-vous avant le mois de mars, le mois d'avril, et c'est les doses qui viennent à manquer. Quand même un sacré paradoxe, là.
Oui, tout à fait, mais d'abord, il est en train de se passer ce que j'avais pointé, ce qu'on avait eu l'occasion d'évoquer sur votre antenne il y a 15 jours et déjà auparavant, à savoir que les Français, en réalité, n'étaient pas contre ce vaccin. Qu'ils hésitaient, qu'ils se posaient des questions, mais que la bascule, en réalité, allait se faire, pouvait se faire très rapidement. C'est ce qu'on a.
Oui.
On a aujourd'hui une ruée
des
demandes
de rendez-vous. Il y a un comportement de mimétisme aussi.
Il y a un comportement de mimétisme. Et l'idée qu'il n'y aura pas assez de doses décuple cette envie de se faire vacciner au plus vite. C'est-à-dire que la rareté accélère le désir de se faire vacciner maintenant. Et c'est là où on se retrouve effectivement face à une situation plutôt compliquée pour le gouvernement et qu'on ne peut pas ramener simplement à des critiques partisanes de la part des élus de l'opposition, qui est qu'il n'a pas dit clairement, je crois, qu'il y avait un problème de nombre de doses qui allait se poser.
Oui, mais donc, ça, le gouvernement français n'y est pas pour grand-chose, parce que c'est des commandes qui ont été passées au sein de l'Union européenne.
Mais justement, si dès le début, il avait dit « attention, on a un certain nombre de doses, mais on aura du mal à vacciner toute la population rapidement parce qu'on risque de se retrouver un peu comme avec le masque hein, », face à une pénurie, s'il l'avait dit clairement, je pense qu'on ne lui aurait pas reproché, puisque justement, ce n'est pas complètement à sa main.
Sophie,
oui, et moi je voudrais juste insister là-dessus, effectivement, ça n'est pas complètement à sa main. C'est-à-dire qu'on peut, les élus locaux, et à juste titre, peuvent dénoncer la façon avec laquelle les choses sont organisées. Le fait qu'en 5 jours seulement, ils doivent ouvrir des centres, calculer, prévoir des poubelles d'une taille bien précise, etc., alors que ça aurait pu être fait avant. Mais sur le vaccin et le fait que l'approvisionnement est insuffisant. Je pense à la décharge du gouvernement que l'approvisionnement, il est ce qu'il peut être.
Alors, je vais vous donner les chiffres dans quelques secondes. 18h38, on se retrouve juste après la pause avec les grandes voix, les derniers chiffres des doses réceptionnées par la France et les derniers chiffres des personnes vaccinées. Vous allez tout comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi il y a un problème. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du lundi, avec toujours Charles Villeneuve, Brice Teinturier de Ipsos France et Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique du Figaro. On continue à parler des chiffres de vaccination et des doses qui commence à manquer, nous disent les élus. Alors, j'avais promis de vous donner les chiffres, les voici. Au dernier recensement, 422 000 personnes ont été vaccinées. Je rappelle juste que à l'heure où on se parle en Israël, il y en a 2,5 millions, il y en a 12 millions aux États-Unis et il y en a plus d'1 million en Allemagne. Et nous avons aujourd'hui en France, réceptionné depuis le 26 décembre, 1 651 000 vaccins. Ça veut dire qu'on en a déjà utilisé un gros tiers. Donc, c'est pour ça aussi que le gouvernement Charles Villeneuve ne veut pas accélérer et aller trop vite. Sinon, dans un mois, il n'y a plus de doses, il n'y a plus de vaccins.
Non, mais il s'est passé aussi tout à l'heure, d'ailleurs, Vincent Teinturier le soulignait, il y a l'élargissement aux plus de 75 ans a provoqué un engouement extraordinaire. Et partant de là, cet engouement a provoqué une demande de rendez-vous tout aussi extraordinaire.
Oui.
Et avec des doses de vaccins qui se sont raréfiées de toute façon. Parce que moi, je suis intimement persuadé que le gouvernement aussi ne le dit pas, ne le souligne pas, mais qu'avec les Américains, n'oublions pas que Pfizer, c'est un vaccin américain, il y a un rapport de force
qui
s'est instauré. Et ce rapport de force, c'est d'abord celui de servir le marché américain.
Ça pose d'ailleurs le problème de l'échec de l'industrie française dans cette affaire.
Bien sûr, on va en venir. L'État pourrait imposer à Sanofi de se mettre à fabriquer, évidemment, avec les droits intellectuels, une négociation et tout, le Pfizer,
mais
justement,
c'est
prêt.
Il y a une négociation, mais ce n'est pas si simple que ça. Et ça va prendre de toute façon des mois en lisant dans le détail les obligations relatives à cette démarche. Oui. C'est très long, très compliqué.
Mais c'est un échec de l'industrie pharmaceutique française,
Est-ce que ça peut être un échec de la façon dont l'État aussi a soutenu la recherche en France ?
Moi, j'ai reçu le patron France de Sanofi il y a 6 mois de ça. Il m'a dit... On sera largement prêt avant les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Sanofi 1 n'est pas prêt et on apprend dans le
ils
même temps,
hasard
des
retard.
Choses, oui. qu'ils annoncent un plan de suppression d'emplois assez massif, notamment à la recherche.
Mais je pense
non mais vous dites, ça nous prendra des mois. Que nous a dit le président de la République quand il était dans le Grand Est, à Mulhouse ? Que c'était un chef de guerre.
Oui.
La guerre, c'est une mobilisation de moyens. Ces moyens-là, il n'a qu'à les prendre de toute façon...
Qui est-ce qui est face à lui ? Il faut aussi parler du syndicat des médecins généralistes et la façon avec laquelle on a décidé en France d'organiser cette vaccination très différente, parce que nous parlions de l'Allemagne, de la façon dont elle est faite là-bas, avec un rapport aux médecins généralistes et qui est très différent de celui peut être trouvé ailleurs.
On peut l'organiser
ailleurs, comme
on veut, mais c'est pas ça qui nous donnera des doses, parce que visiblement, il n'a pas suffisamment. Brice Teinturier.
Non, mais puisque Charles Villeneuve rappelait que le chef de l'État avait évoqué que nous étions face à une guerre, moi, tout cela me rappelle plutôt l'étrange défaite de Marc Bloch, où il souligne qu'en 40, si la France, effectivement, a connu cette défaite cuisante, c'est à la fois pour des questions de logistique et pour des questions de stratégie, d'incapacité à être beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide, et puis à organiser la logistique. C'est un peu malgré tout ce qu'on a là, c'est-à-dire que la critique du manque d'anticipation, elle n'est pas que partisane, je crois, puisqu'effectivement, il y a des échéances qui étaient connues à l'avance et qu'on voit bien là que le gouvernement est plutôt à la remorque des critiques et essaye de rattraper le retard à l'allumage, finalement d'ouvrir ou de laisser ouvrir des vaccinodromes, mais que maintenant, c'est le nombre de doses qui ne suit pas. Et c'est ça qui fait que, du côté de l'opinion publique, il y a de plus en plus d'incompréhension, alors qu'on pensait que la situation était sous contrôle sur la question de la vaccination.
Ce qui n'est pas compréhensible, justement, c'est que dans l'affaire des masques ou dans l'affaire des tests, c'est un manque d'anticipation. Et
aussi,
que là, de toute façon, au fur et à mesure que la tension montait, on savait très bien qu'il fallait préparer, justement. On sortait du deuxième confinement. Il y a la menace du troisième confinement. Et cette absence d'anticipation, à cette absence d'anticipation se joint une absence de logistique. Et avoir confié aux agences régionales de santé la logistique, le soin d'organiser, est une erreur stratégique.
Alors, il y a un autre élément qui pourrait changer la donne, c'est l'inconnu du vaccin AstraZeneca. Vous savez que c'est un vaccin qui pourrait bientôt être validé par les autorités européennes et par conséquent par les autorités françaises, sauf qu'on ne sait pas précisément encore son efficacité sur les personnes âgées.
Oui.
Et donc, ça pourrait ouvrir la vaccination plus vite que prévu aux plus jeunes et revoir encore complètement, alors là, ça posera aussi des problèmes de logistique, c'est-à-dire la priorisation des vaccinations telle qu'on l'a établie, enfin, telle que le gouvernement l'a établie avec la autorité de santé depuis maintenant quelques mois.
Oui, ce qui ne serait pas un problème en soi, puisqu'on a vu aussi au cours des derniers jours que les priorités initiales qui avaient été assignées ont changé. On a 800
000
personnes.
Oui, mais on remet un coup de frein à chaque fois quand même dans la logistique. À chaque fois qu'on change de priorisation de public,
bien sûr,
on
ça ne facilite pas la logistique.
Ça ne facilite pas les choses.
Ça peut permettre d'adapter aussi la situation à certains publics. Là, en termes de priorité, tout à coup, 800 000 personnes qui étaient les malades chroniques graves ont été mis au même niveau de priorité que les 75 ans et plus.
Peut-être que plus que sur les masques, plus que sur les tests, le président joue sa crédibilité sur cette affaire ?
Je crois qu'il joue une grande partie de la grille de lecture finale qui va se faire sur comment cette crise a-t-elle été gérée. Pour l'instant, l'opinion elle est critique. On a plutôt 38% de jugements, on va dire, positifs. Ce qui est peu, mais ce qui donne malgré tout un socle qui n'est pas négligeable non plus. Mais la grille de lecture n'est pas cristallisée, elle n'est pas faite, elle n'est pas achevée. Et ce sera, je pense, à l'issue de la vaccination et lorsqu'on sortira de cette période, que les Français se diront si oui ou non le gouvernement a globalement failli ou bien agi.
18h46, on parle de la charte de la laïcité, peut-être trop timide dans quelques secondes. Restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite du débat des grandes voix du lundi avec toujours à mes côtés Charles Villeneuve, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France et Sophie de Ravinel du Figaro. Et on parle à présent de ce projet de loi qui décidément divise. Projet de loi contre le séparatisme pour conforter les principes républicains. Les débats ont débuté à l'Assemblée nationale. 1700 amendements ont déjà été déposés alors qu'Emmanuel Macron lui recevait les conseillers français du culte musulman pour valider cette fameuse charte des imams. À la sortie, tout à l'heure, le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, disait ceci.
Le président de la République, je pense qu'il a été personnellement investi dans ce travail de réflexion. Il a toujours été à nos côtés. Il espère effectivement que ce premier pas accompli puisse voir tout de suite la suite, c'est-à-dire la mise en place du Conseil national des imams et d'accompagner l'ensemble des associations musulmanes au niveau local. C'est un travail qui va être long, mais nous sommes confiants.
Voilà, travail qui va être long, mais qui réaffirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République. Il y a trois points importants. La définition de l'islam politique, la référence à l'apostasie et les marqueurs de l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est une avancée notable, Charles Villeneuve ? L'islam en France se structure. Ça y est, nous y sommes.
Oui, on verra ça.
Ça fait longtemps qu'on en parle.
Moi, je suis...
Non, mais ça fait longtemps qu'on en parle.
Écoutez, je suis le sceptique de service ce soir. Mais
il en faut un.
D'abord, sur les 8 associations, rassemblements, organisations, il y en a 5. C'est déjà pas mal. Mais il y en a 3 importantes qui n'ont pas signé. Notamment le président du comité de coordination des musulmans turcs de France. Et puis aussi, je cherche Fédération nationale des associations islamiques.
Oui.
Et puis, le dernier, c'est le président de l'association Islam Sonat Jamaat, la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion.
Mais pour rentrer dans les détails, Charles...
Non, mais et vous n'avez pas les jeunes.
Oui.
Et vous n'avez pas les jeunes, notamment des fiefs, si vous voulez, je dirais, salafistes du Val-de-Marne et notamment aussi de Seine-Saint-Denis. Donc, je suis beaucoup plus prudent. Ce qu'il y a de vrai, c'est que le président de la République est arrivé, si vous voulez, à un compromis. Ce compromis exprime un certain nombre d'idées qui sont compatibles avec la République. Maintenant, je n'oublie pas qu'il y a quand même des grandes lignes de force au sein de la grande mosquée de Paris, oui, algérienne, et que le roi du Maroc, notamment, qui surveille ça comme le lait sur le feu par rapport à la communauté marocaine, et Dieu sait s'il la finance de manière extrêmement solide.
Mais justement, c'est un point que je voulais aborder.
Ne sont pas tout à fait ralliés, si vous voulez, à cette affaire-là.
Mais il y a quand même un élément très très important, c'est la création d'un Conseil national des imams. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui sera donc chargée de labelliser les imams exerçant en France, oui, avec un contrôle accru, oui, des financements étrangers, oui, dès qu'ils dépassent 10 000 euros. Ça veut dire que c'est la fin des imams
étrangers.
Oui, mais plus qu'étrangers, même problématique, parce qu'on avait des imams salafs sur notre territoire qui étaient envoyés par des pays étrangers.
C'était essentiellement algériens, marocains et turcs.
Oui.
Oui. Alors, sachant que le fait que, effectivement, les organisations turques n'aient pas signé cette charte, c'est quand même un signe. On pourra peut-être en parler, mais c'est aussi un signe international des tensions qu'il y a, évidemment, entre la Turquie et l'Europe, sinon la France. Mais sur le fond, évidemment que c'est une avancée. Évidemment.
Parce qu'il y a quand même 300 imams aujourd'hui détachés sur le sol français, oui, qui viennent de Turquie, de Maroc et d'Algérie, effectivement, 330, principalement. Oui. L'idée, c'est d'y mettre fin d'ici 4 ans. Enfin, c'est quand même...
Oui, c'est une dynamique. Ouais. C'est une dynamique, c'est une volonté politique qui est soutenue par ces organisations, dont l'UOIF d'ailleurs, même si jusqu'au dernier moment, on ignorait s'il signerait ou non. C'est quelque chose de significatif, mais il faut effectivement que ça se traduise dans les actes, évidemment.
Brice Teinturier.
Non, je crois que c'est un succès pour Emmanuel Macron. Alors, ce n'est peut-être pas un succès complet. Il y a encore effectivement des associations ou des partis du monde musulman qui n'adhèrent pas à cette charte, mais qui auraient imaginé, il y a encore quelques années, qu'il y en aurait 5 qui signeraient une charte avec un certain nombre de principes qui sont réaffirmés, avec l'idée qu'on peut critiquer l'islam, y compris dans ses fondements. C'est ce qui a été réaffirmé aussi récemment par Moussaoui. Donc il y a quand même des avancées substantielles et qui répondent au moins en partie aux angoisses de la population française, qui véritablement sur la question de la radicalisation d'une partie de la population musulmane
s'interroge et attend.
Mais
la
au-delà
de la
dimension politique, est-ce que ça peut avoir un impact quand même? Parce qu'on avait pendant longtemps pointé du doigt la responsabilité des imams venus d'ailleurs, qu'on n'arrivait pas à maîtriser, qui avaient des prêches parfois problématiques pour nos démocraties, pour notre fonctionnement républicain. Est-ce que ça peut y mettre fin? Parce que c'est quand même ça la finalité.
Je pense que ce serait pour parler, je ne sais pas quel est le terme, du wishful thinking, enfin, c'est du souhait, de la volonté. Est-ce que ce qui est très compliqué, c'est le financement de la construction de ces lieux de culte et l'emprise que continue à avoir. Vous parliez du Maroc, mais évidemment que tous les pays qui ont des relations très étroites, historiques avec la France et dans la, de tradition musulmane peuvent maintiendront ces liens. Et c'est des liens aussi interpersonnels, ce sont des liens qu'on ne peut pas couper comme ça. Est-ce que c'est souhaitable que ce soit coupé? Certainement pas. Il y a beaucoup de binationaux aussi. Il y a une tradition, il y a quelque chose. Mais,
non, mais l'idée, c'est quand même que de les mettre mosquées des règles par les salafistes, c'est fini.
Oui, non, mais
c'est
ça, c'est sûr.
L'idée, Charles Villeneuve.
C'est ça l'idée, oui. Cela étant, sur le plan du droit, nous avons un droit, aussi bien français qu'européen. Il faut aussi, évidemment, que ça se mette en musique par rapport à la fermeture de toutes ces mosquées. Il y en a plusieurs qui sont suspectes, mais qui sont toujours ouvertes. Et puis, vous parliez du financement, très important. Autant sur les Marocains, de toute façon, les relations sont paisibles. Autant avec l'Algérie, c'est beaucoup plus fluctuant quand on sait de toute façon que le cœur du système, c'est quand même l'armée. Et cette armée, à l'heure actuelle, je ne dis pas qu'elle est complètement stabilisée.
Boris Teinturier,
non, mais il y a vraiment toujours cette idée. Il y a ce qu'il reste à faire, mais il y a déjà des choses, je trouve, qui renforcent l'arsenal, à la fois juridique, à la fois dans la façon de recruter des imams, de les former, d'avoir un œil sur les modes de financement qui vont totalement dans le bon sens. Et ça, c'est plutôt de l'acquis, même si tout n'est pas encore fait, qu'il reste à faire. Il y a de l'acquis et il y a une véritable, moi je trouve, différence par rapport à la situation antérieure.
1700 amendements déposés, inutile de dire qu'on aura l'occasion évidemment d'en reparler de ce projet de loi qui arrive donc à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du lundi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
On marque une pause. Dans quelques secondes, vous restez avec nous. On se retrouve pour le journal et le débat du Club des idées. Ce soir, on évoquera cette libération de la parole nécessaire des victimes d'inceste. On sera en direct avec l'une d'entre elles. À tout de suite.